CFM, Binti Minoudi, l'émission politique.
Bonsoir, bienvenue dans Binti Minoudi, le rendez-vous politique de la rédaction. Invité de notre émission ce soir, Jean-Baptiste Luccioni, maire de Pietrosaile, qui s'est récemment, notamment, illustré lors du grand débat national à Côte-Saône, en renvoyant dos à dos l'exécutif insulaire, le gouvernement, pour leur attitude infantile, leur incapacité à se parler. Jean-Baptiste Luccioni, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai hésité, en préparant cette émission, sur votre couleur politique. Vous étiez membre de l'ancienne mandature de gauche, à l'époque de Paul Jacob, corps social-démocrate, me semble-t-il.
Tout à
vous
fait.
Êtes rapproché de La République En Marche. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez? LERM, divers gauche, sans étiquette
Alors, je suis et j'ai toujours été divers gauche et la gauche autonomiste. J'ai été adhérent que d'un seul mouvement, jamais adhérent d'un parti politique, mais un seul mouvement qui était corps social-démocrate. Donc voilà, depuis mon parcours politique qui a commencé fin des années 90, début des années 2000, a toujours été jalonné par cette volonté de construire l'intérêt commun, l'intérêt collectif autour de valeurs qui sont portées pour moi par la gauche réformiste, cette gauche qui est progressiste et qui a de plus en plus de mal malheureusement à porter sa voix au niveau de la Corse en particulier.
Alors on se retrouve dans 3 minutes juste après l'autre dossier. Ce soir on parle d'urbanisme.
Binti Minoudi, le dossier.
L'urbanisme était au cœur des premiers débats de la conférence des maires installée cette semaine par la préfète de Corse. Pour un certain nombre de premiers magistrats, les contraintes sont trop importantes et grèvent le développement de leur commune. Aline Castellani, emblématique maire de Piane.
Mais il apparaît que la loi Élan est venue modifier beaucoup de dispositions qui sont dans le PADUC, donc il faut absolument le modifier. Modifier le PADUC là-dessus, il y a les espaces stratégiques agricoles qui ont été mis en cause par le tribunal administratif, donc il faut modifier la carte. Il y a le problème des AOT, l'interdiction de mettre des bains de soleil sur des places fréquentées. C'est insupportable pour les gens qui travaillent l'été et qui ont besoin de ces annexes de leur établissement pour pouvoir faire leur économie touristique, voilà.
L'empilement des législations, règlements et autres normes ne présente que des inconvénients. Henri Franceschi, qui est le maire d'Ucciani.
On a beaucoup de mal à obtenir des permis de construire, alors que ça devrait être quand même beaucoup plus souple pour des communes de l'intérieur que sur des communes du littoral. Alors, il y a un travail à faire. Je pense qu'il faudra qu'on trouve des solutions au niveau des lois qui se superposent, que ce soit la loi montagne, la loi littoral et le PADUC. Il y a un travail à faire. On vient d'ouvrir le chantier.
Pour d'autres, comme Jean-Marie Seyté, le maire de Galère, le PADUC est l'outil dont la Corse a besoin.
Le PADUC est un document nécessaire. Le PADUC est un document qu'il fallait faire. Le PADUC est un document qu'il faut aujourd'hui conserver. Après, est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui, évidemment, on peut l'améliorer, comme tous les documents d'urbanisme. Moi, je pense aussi qu'il faut attendre un peu, dans le sens où donner un peu de stabilité aux documents, c'est bien, pour laisser le temps à tout le monde de mieux les comprendre. Parce que si on change les documents tous les 3 ans, les gens sont complètement perdus.
Le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, est peut-être le plus réaliste de tous. Il faudra faire des compromis, explique le président du groupe Andap Edouman et tenant de La République En Marche en Corse.
Aujourd'hui, l'urbanisme est partagé entre une compétence nationale, où c'est le Parlement à Paris qui décide des lois, et une compétence aussi locale avec le PADUC, et qu'il faudra dégager des consensus si on veut trouver des solutions. J'ai fait valoir que j'étais très inquiet. Alors, certains ont employé le mot de pessimiste suite à mon intervention. J'ai simplement expliqué que le problème aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on le connaît en Corse et que j'ai bien peur que ce soit difficile de trouver la bonne solution parce que, je répète, il faut des consensus politiques qui n'existent pas au moment où nous parlons. On le voit bien. Et où il faudra mettre d'accord la représentation nationale, la représentation locale, les associations pour l'environnement, les maires. Et on voit bien que là, il y a des choix politiques. Parce que ce n'est pas que technique. Aujourd'hui, on a évoqué beaucoup la technique. Je pense qu'en réalité, il y a aussi des choix politiques.
La conférence des maires a 2 mois pour rendre des conclusions sur ce sujet urbanistique. Une conférence des maires déjà critiquée, notamment par les élus nationalistes, qui y voient une façon pour le gouvernement de court-circuiter la collectivité de Corse.
Binti Minoudi, l'émission politique.
De retour avec Jean-Baptiste Luccioni. Alors Jean-Baptiste Luccioni, l'urbanisme, on voit bien, central, primordial pour un maire, mais est-ce que l'urbanisme conditionne tout le reste ?
Moi, je dirais que regardez simplement l'action d'une collectivité telle qu'une mairie à travers simplement le prisme de l'urbanisme, c'est aussi regardé par le petit bout de la lorgnette. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on regarde ça à travers la volonté des conseils municipaux respectifs d'aménager leur territoire et d'avoir cette vision prospective et cette vision du développement, mais aussi en même temps de la préservation de ce qu'ils veulent faire sur leur territoire. C'est une compétence communale depuis la loi de décentralisation avec les années 83, hein, donc c'est pas hier que cette compétence a été transférée de l'État aux communes. Ça a été transféré en même temps que la suppression de la tutelle de l'État sur les autres collectivités. Donc, je pense que on a le temps et on a pris le temps de s'approprier cette volonté d'aménager notre territoire, de voir de façon prospective, de présenter un projet à nos populations. Et c'est ce projet qu'il faut mettre sur la table de façon démocratique, avoir un débat serein. Mais ce projet s'inscrit dans un cadre qui est malheureusement et heureusement aujourd'hui contraint à travers la hiérarchie des normes et la commune et son document d'urbanisme.
La loi Padduc, le PLU. Hein,
tout à fait. Avec, on peut intercaler aussi les SCOT là où il y en a. Voilà. Donc il y a toutes ces et des PLU intercommunaux aussi, puisque à l'échelle nationale on parle de PLU intercommunaux et nous à l'échelle locale on est en train de construire nos PLU communaux.
Ah, donc, vous justement comment vous faites, comment vous avez fait?
Il n'y a pas de recette miracle, hein. Je ne pense pas qu'on puisse faire du copier-coller de ce qui a pu être réalisé sur une commune et le prendre à côté. C'était l'engagement de l'équipe que j'ai eu la chance d'animer maintenant depuis 2001, et le premier mandat était consacré justement à construire cette épine dorsale et cet acte de démocratie participative et associative au niveau de la collectivité. C'était de réaliser le PLU.
Donc là, comment on fait le lien entre ces intérêts qui sont contradictoires parfois, associations professionnels ou...
D'abord, le premier conseil que je donne, même si c'est facile de donner un conseil une fois, c'est de faire un PLU sans regarder le cadastre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit partir d'un projet collectif, d'une ambition commune, d'une ambition collective pour arriver à construire ce que doit être l'avenir de notre territoire. Si on regarde, comme je disais tout à l'heure, par le petit bout de la lorgnette, les choses et qu'on souhaite faire plaisir à tout le monde, malheureusement, on ne pourra pas y arriver. C'est un constat simple. C'est que aujourd'hui, sans projet, on ne peut pas construire quelque chose de pérenne et quelque chose de
projet qui conditionne l'urbanisme, on est d'accord, et pas l'inverse, quoi.
Ah ben tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut le mettre dans le bon sens. C'est-à-dire que la somme des intérêts particuliers ne fera jamais l'intérêt collectif. Donc partant de là, et malheureusement, je peux comprendre hein, à l'échelle humaine que les personnes soient déçues s'ils n'entrent pas dans le cadre du projet collectif. Et c'est évident. C'est-à-dire que là où on arrête le trait, ben d'un côté du trait, le terrain a une valeur importante, et de l'autre côté du trait, le terrain n'a pas de valeur. Donc je peux comprendre. Pour autant, si on est capable de l'expliquer à travers un projet, à travers une démarche, à travers des choix qui ne sont pas des choix arbitraires et simplement des choix de volonté de construire les choses et d'expliquer pourquoi on les fait, je pense que ça peut passer. Après, voilà. Après, je dis, c'est pas facile. On peut pas faire du copier-coller. C'est pas parce qu'on a réussi à Pietrosel à réaliser ce document d'urbanisme, à réaliser ce PLU, que on prend ce qui était fait à Pietrosel. On peut le dupliquer à volonté. C'est pas le cas.
Réviser le Padduc. Votre religion est faite ou pas?
Ah ben, écoutez, de toute façon, aujourd'hui, comme tout document vivant. Et d'ailleurs, c'est inscrit dans la délibération. Et moi, j'étais à l'époque le rapporteur du Padduc quand il a été voté. Donc, c'est inscrit qu'aujourd'hui, c'est un document qui doit vivre, qui doit évoluer, qui doit s'enrichir et qui doit bien sûr être amplifié et amélioré. C'est évident que aussi, ça dépend des majorités qui vont se succéder et de leur vision politique, parce que dans le Padduc, il n'y a pas simplement que le volet d'aménagement du territoire. Il y a aussi le plan de développement.
Et donc, oui.
Et c'est un document très très complexe. Le Padduc, c'est-à-dire qu'on le regarde simplement à l'échelle de l'urbanisme. D'abord, c'est pas un document d'urbanisme, hein, c'est une directive territoriale d'aménagement, et il a un volet schéma de développement et plan d'aménagement. Donc, il faut aussi que les majorités qui se succèdent présentent leur plan de développement, et en fonction des plans de développement, on décline ce plan de développement à travers justement des orientations, et ces orientations sont traduites par des textes et des cartographies. Donc c'est vraiment la volonté de la majorité d'améliorer ce plan de développement et de le traduire à travers des cartographies.
Un mot sur les AOT, autorisations d'occupation temporaires. Elles sont nécessaires souvent, hein, pour les établissements, paillotes, activités nautiques. Il y a un petit bras de fer, hein, professionnels, associations, État. En ce moment, la parole politique est un peu confuse, ou en tout cas pas très claire sur le sujet. Comment il faut faire selon vous ?
Bah, d'abord, je pense qu'il faut essayer, quand c'est compliqué, il faut essayer de revenir à ce qui est, les choses les plus simples. Aujourd'hui, ces AOT sont délivrés sur le domaine public maritime. Donc, le domaine public maritime, c'est un lieu qui est aujourd'hui appartient à l'État, et donc l'État a la compétence pour attribuer ou non, en fonction, mais toujours pareil, hein, pas d'arbitraire, mais des règles qui sont édictées, donc les lois littorales, des règlements, PADUC par exemple, en fonction de ces lois et règlements, eh ben on accorde ou non des autorisations d'occupation temporaire pour créer une activité. Il faut savoir que ça doit être normalement en relation avec la mer et uniquement en relation avec l'activité maritime. Bon. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de ces AOT, je pense que la démarche impulsée par la préfecture, et Madame la préfète en particulier, d'associer les maires pour que les maires prennent la concession des plages et donc aient une vision globale et totale de l'aménagement de leur territoire, doit contribuer dans le temps à faire que ça s'inclut justement dans cette volonté d'échange et de débat démocratique avec la population et avec la transcription par des documents et des règlements qui vont faire que ce sera connu de toutes et de tous, et donc on pourra le présenter. Cette démarche prend du temps, on s'y est inscrit aussi dans la commune de Pietrosaine, s'y est inscrit dans cette démarche aussi, donc ça prend du temps, c'est du temps d'études, du temps d'échange, du temps de repenser aussi peut-être les choses qu'on avait mal appréhendées, un temps avec le conseil des sites, un temps aussi avec l'enquête publique, et d'écouter un peu tout ce qu'on vous l'avait dit tout à l'heure, un peu toutes les différentes parties, aussi bien l'usager de la plage qui a envie d'avoir la totalité du domaine public maritime à sa disposition est donc totalement vierge, et puis la volonté qu'on pourra avoir collectivement d'une activité économique encadrée et qui fasse que les personnes, à travers notre levier le plus important qui est le tourisme, soient accueillies dans les meilleures conditions possibles et qui fasse que cette activité économique puisse se dérouler de façon la plus pérenne possible et permettre aussi, parce qu'il y a bien entendu l'activité économique, mais au-delà de l'activité économique, il y a derrière les acteurs économiques, bien entendu le porteur de projet, l'entrepreneur, mais derrière l'entrepreneur, il y a aussi des familles qui vivent, à travers des salariés, à travers un code du travail. Et si on a la façon la plus transparente et la plus pérenne possible, on pourra aussi être exigeant avec toute cette réglementation, même les normes d'hygiène et de sécurité. Donc on peut être exigeant si on est en capacité de donner des autorisations qui sont conformes à la réglementation.
Politiquement, la conférence des maires, c'est un moyen de court-circuiter la CDC, selon vous ?
Moi, je parle déjà du principe que aujourd'hui, on s'aperçoit j'ai l'impression qu'on le mouvement des Gilets jaunes a permis de redécouvrir qu'il y avait des élus de proximité qui étaient les maires. Le gouvernement les a oubliés, les gouvernements successifs, le dernier aussi, mais les gouvernements successifs, en vidant des compétences le plus possible les collectivités locales et les communes en particulier, en transférant le plus de compétences possible. Sauf que quand il y a des soucis, on s'aperçoit que l'élu de proximité, le seul élu que connaissent réellement les populations, c'est le maire. Donc on se retourne vers cet élu qui a l'échange direct et qui a l'écoute et bien entendu quelquefois aussi l'acceptation de par la population de ce qui peut être présenté à cette population. Donc moi, je suis dans la partie justement où on doit échanger sans tabou et sans exclusive. Hein, je l'ai souvent dit. Donc, quand on est invité à échanger, à travailler, je pense qu'il est logique qu'on réponde. Pour autant, on a chacun à sa place des compétences à activer. Les communes ont une compétence, la région a la compétence sur le plan de développement, le schéma d'aménagement à travers le PADUC, l'État a la compétence parce que c'est une gestion de son territoire et c'est un échange. Voilà. Donc voilà. Par contre, quand on revient sur l'urbanisme en particulier, aujourd'hui, cette compétence, elle n'est pas partagée. C'est-à-dire que, où à un moment donné, et les compétences d'un élu.
Le territoire est partagé, mais pas la compétence.
C'est-à-dire que l'urbanisme aujourd'hui, où la collectivité a fait le choix d'avoir un document d'urbanisme, carte communale ou PLU, et dans ces cas-là, c'est le maire qui signe les permis et donc qui est en première ligne et qui assume la responsabilité si son acte est déféré au niveau du tribunal. Donc c'est lui qui vote. Si cette volonté n'est pas assumée par la collectivité et le maire ne fait pas, cette compétence, elle appartient à l'État. Et c'est l'État qui instruit et qui va au bout et qui se retrouve dans mon tribunal si un jour un souci avec les documents d'urbanisme.
Binti Minoudi, l'émission politique.
président de la République, Jean-Baptiste Tchun, est en train de s'exprimer depuis près de 20 minutes maintenant. Emmanuel Macron qui doit livrer aux Français ses solutions pour sortir de la crise dite des Gilets jaunes, apaiser la société hein, en fin de compte. Alors, pas encore vraiment beaucoup d'annonces pour l'instant très très précises. On a notamment parlé de travailler davantage. C'est une bonne solution ? Revenir sur les 35 heures par exemple, ou bien un jour férié, travailler gratuitement, je dirais.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a à construire des solutions et qui doivent être des solutions qui doivent être partagées par le plus grand nombre. Cette remise en question et en cause de ce que pourrait être l'organisation du pays doit passer, bien entendu, par un travail, si on arrive au bout, une volonté collective, un travail avec les différents acteurs qui sont le monde économique, avec leurs représentants et des entrepreneurs, avec le monde syndical, et donc mettre autour de la table les gens qui sont légitimes à apporter ce débat et apporter leurs revendications au niveau de l'État.
On a vu par exemple les maires là qui se plaignaient notamment de l'absence de services publics, notamment dans le milieu rural. Est-ce que de nouvelles baisses d'impôts, au moment justement où les maires se plaignent de ça, c'est pas contre-productif?
Aujourd'hui, on s'aperçoit que justement, il y a une volonté affichée depuis des années. Hein. Attention, hein, c'est pas simplement le dernier gouvernement hein, de la réduction justement des services publics en milieu rural. Donc, on n'apporte plus simplement la vision de l'humain qu'à travers la vision comptable. Donc, malheureusement, c'est ce qui s'est passé aussi dans les hôpitaux et on voit qu'on a été dans le mur, hein, puisque notre système de santé est dégradé. C'est ce qui se passe aussi dans le cadre de l'éducation nationale. Et on s'aperçoit que la surpopulation dans les différents classes, que ce soit dans le premier cycle, second cycle, ou même au niveau des lycées, donc on s'aperçoit que les résultats ne sont pas obligatoirement à la hauteur de nos espérances, puisque l'éducation nationale et les résultats, quand on prend les résultats au niveau mondial, la France est quand même très très mal classée aujourd'hui, même si... on se gargarise des résultats.
Ça, c'est le résultat d'une politique qui sont menées depuis des décennies, quand même.
Des décennies, mais... Donc
20 ans, au moins.
Mais si on souhaite amplifier cette politique, j'ai l'impression qu'elle a déjà, malheureusement, donné les fruits, et on sait déjà de ce qui va arriver. C'est-à-dire que soit on remet l'homme au centre de nos discussions et de notre ambition collective, soit on y met la finance. Et si on y met la finance, je pense que je serai encore de ceux qui... dans la réaction politique, feront savoir aux représentants nationaux qui sont dans l'erreur.
On attendait la jambe sociale, la jambe gauche d'Emmanuel Macron, on la voit pas trop, quoi.
C'est-à-dire que, c'est malheureusement, j'ai l'impression que la jambe sociale a vite été oubliée et qu'aujourd'hui, le pays chemine beaucoup plus avec une jambe libérale. Mais à force de marcher qu'avec une seule jambe et la jambe droite, on tourne en rond, quoi. Et malheureusement, on revient à ce qui a été fait et aux mauvaises recettes qui ont été connues depuis des années. La privatisation, par exemple, d'un secteur important comme le secteur hydraulique au niveau d'EDF ne peut conduire à terme qu'à, justement, une déréglementation qui va faire que le service public va encore une fois se dégrader. Et encore localement, si on s'aperçoit de ça, on voit très bien que la Corse va être encore une des premières à subir ces contraintes et peut-être un jour avoir des hausses importantes d'électricité.
Dans ce contexte un petit peu difficile, les élections européennes, vous les envisagez comment ?
D'abord, déjà, c'est malheureusement une élection qui mobilise pas la
population n'est pas très très intéressée par l'Union européenne.
Et malheureusement, on s'aperçoit que les règlements qui sont votés et qui s'appliquent à toutes et à tous et à tous les pays, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de services publics en France. Et pareil, de la même façon, on n'a pas construit une Europe sociale. Donc, il faut que chacun s'exprime, que chacun aille se servir de son moyen unique et qui est bon en saine démocratie, c'est son bulletin de vote. Et j'invite toutes et tous à le porter. Après, si on participe pas, on a du mal aussi à s'exprimer sur des choses qui, bien entendu, on le sait dès le début, vont s'imposer à nous.
Le temps file malheureusement très très vite. Il nous reste un petit peu moins d'une minute, Jean-Baptiste Lucioni. Ça va très très vite. Est-ce que vous avez des ambitions régionales?
Alors, j'ai fait un choix très très personnel, assumé. et totalement serein aujourd'hui de ne plus me représenter à l'élection régionale parce que ça a été un moment merveilleux de ma vie politique, mais pour moi il est passé et je m'engage à accompagner ceux qui vont porter le mieux, je pense, mes idées qui sont des idées de gauche, des idées progressistes
Quelle couleur vous accompagnez?
Eh ben aujourd'hui, je dirais que je ne retrouve pas dans l'offre politique actuelle au niveau de régional porté par ce soit un mouvement ou un parti. Malheureusement, la gauche est un peu à faune. Il faut se remettre aussi de nos différents échecs. Hein, l'échec de la ville de Bastia, l'échec de la ville de Ajaccio, l'échec territorial font qu'à un moment donné, il faut aussi reconstruire. Et quand on veut reconstruire, il faut prendre un peu de temps. C'est pas simple. Il faut que de nouvelles personnes, de nouveaux visages arrivent à émerger et les anciens un peu comme moi doivent être là pour les accompagner et leur permettre d'émerger.
C'est déjà la fin de ce rendez-vous malheureusement. Merci beaucoup Jean-Baptiste Luchon d'avoir été notre invité. Bintiminoud, il revient donc la semaine prochaine. Patrick Winschiger recevra Étienne Basté, les gars, élu de l'opposition communiste à la mairie d'Ajaccio. Dans quelques secondes, vous retrouvez Michael André.